Réponse de Laurent Lebon, président du musée Picasso, à quelques éléments de langage du Front National sur l'art. C'est une vieille polémique qui date du début des années 90, que le Front National recycle aujourd'hui. Polémique autour des critères d'appréciation esthétique dans l'art contemporain. Polémique ouverte par la revue Esprit en 1991. S'en est suivi des articles au titre féroce, repris aujourd'hui comme phrase choc du Front National. Le grand bazar de l'art contemporain. L'art triste. Le complot de l'art. La guerre de l'art. Ce qui reprochait à l'art contemporain, l'ennui, l'absence de forme, l'absence d'émotion, la pure création du marché et un art élitiste. L'art contemporain serait tout simplement le fruit d'esprits dérangés. Laurent Lebon, président du musée Picasso.
Tout passe par la médiation, qui est le sens intrinsèque de l'art, et on revient toujours fondamentalement à l'école. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces débats parfois pathétiques qui nous occupent ont une cause et une seule, c'est-à-dire cette idée simple que, au plus tôt, on n'a pas forcément été confronté à la création artistique. Si je peux me permettre de dire un mot sur ma situation personnelle, j'ai eu la chance de découvrir l'art, mais tard au fond. Et j'aurais toujours peut-être ce petit regret de ne pas avoir eu la chance de découvrir plus tôt tout simplement ce qui a changé ma vie. Voilà. Et je crois que même si ça a toujours une volonté de combat, on sait aujourd'hui combien il est difficile pour un groupe scolaire, si on devient pragmatique 5 secondes, d'aller visiter un lieu culturel. C'est parfois aussi compliqué que ça parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de transport. Mais je crois que notre mission, en tout cas moi par exemple en tant que responsable de musée, je dédie toutes les matinées uniquement à l'accueil des enfants et je crois que ça reste clairement le moment où tout se joue. Voilà. Même si on n'a pas forcément un retour immédiat, je crois que c'est fondamentalement là où tout se précise. Mais nombre d'historiens d'art ont dit combien il fallait de jugement et du passage du temps pour renverser les valeurs. Prenons un seul exemple, peut-être Georges de la Tour. Georges de la Tour, grand peintre français du XVIIe siècle, avait disparu de l'histoire de l'art. Et il a fallu un critique pour nous le ressusciter. Et aujourd'hui, peut-être que pour beaucoup, c'est un des peintres essentiels du XVIIe siècle. Et il parle beaucoup à la contemporanéité par son jeu sur la lumière, par sa force incroyablement intime. Voilà, Georges de la Tour est apparu. Et voilà, au fond, ce qui est la force de l'histoire de l'art, c'est de nous briser les frontières, casser les seuils, nous ouvrir des mondes et fondamentalement nous faire voir un monde vraiment différent.
Les catégories de genre qui organisent et hiérarchisent les œuvres sont devenues obsolètes. Et ce trouble dans le genre affole les esprits accrochés aux lois de l'identité.
Je dirais que ça brise un peu les fondements. C'est d'ailleurs assez étonnant puisque on était sur un système des beaux-arts, hein, pour reprendre finalement la grille de lecture de l'art. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, l'art peut parfois se résumer à une peinture à l'huile, une sculpture en bronze ou une aquarelle sur papier. Et ce qui s'est passé depuis un siècle est un dynamitage de ce système. Aujourd'hui, un artiste plasticien va emprunter au monde du spectacle vivant, un acteur du théâtre va emprunter au monde des arts plastiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ben, au fond, je crois que c'est ça qui rend le monde passionnant, mais il inquiète. Et du coup, c'est là où nous devons être encore plus présents, pour défendre cette pluralité, justement, de création. C'est pour défendre cette diversité et pour dire que tant qu'il y a art, il y a débat, tant qu'il y a art, il y a dialogue, et qu'au fond, c'est ça qui rend quand même la vie plus passionnante et plus intéressante que l'art, comme pour parodier notre ami Filiou.
retour sur la polémique de Jeff Koons à Versailles.
Un choix d'artiste, non, ne se fait pas par polémique. Pour revenir à cette aventure versaillaise, au fond, c'est un très modeste hommage à ce laboratoire de la création qui a toujours été Versailles. Et quitte à surprendre les auditrices et les auditeurs, au fond, c'est un grand hommage à la tradition. Versailles a toujours été un grand champ des métiers d'art. On en parlait tout à l'heure dans votre introduction. Eh bien, Jeff Koons, c'est le grand apôtre des métiers d'art, si je peux me permettre. Chaque sculpture demande des années de méditation, de création. Il fait pour cela vivre des fonderies qui sans lui ne vivraient pas. Et je crois que fondamentalement, chez Jeff Koons, il y a trois siècles après Louis XIV, quatre si on bascule dans le 21e siècle, un vrai hommage au fond à ce sens de la tradition. Alors peut-être que je surprends l'auditeur avec cette assertion, mais je suis prêt à prendre quiconque dans un débat pour montrer combien l'œuvre de Jeff Koons est tout sauf ready-made, même si lui s'installe bien sûr dans une histoire dans la lignée de Marcel Duchamp pour x et y raisons, mais je crois que fondamentalement il a un atelier, voilà, il a ce sens critique par rapport à cela. Alors après, deuxième choix de Jeff Koons, deuxième raison, mon métier c'est de montrer l'œuvre et c'est de ne pas montrer sa reproduction. Je crois que fondamentalement aujourd'hui, pour défendre l'art, il faut défendre l'original et l'authentique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, c'est qu'il faut se confronter à l'œuvre. Et Jeff Koons, qu'est-ce qu'il en était en France lorsqu'on a décidé de faire l'exposition à Versailles ? Une œuvre reconnue dans le monde entier, une œuvre exposée dans le monde entier, une œuvre achetée par moult personnes, et bien aussi étrangement soit-il, elle n'était pas présente dans les collections françaises. Elle n'avait jamais fait l'objet d'une exposition. Et donc, quitte à susciter le débat qui est arrivé après, pour moi, fondamentalement, il s'agissait d'exposer l'œuvre, de montrer au public que derrière les images de papier glacé, il y avait un travail. Et qu'après, eh ben, on pouvait discuter, mais je crois que fondamentalement, Jeff Koons d'ailleurs l'avait indiqué très en amont, 10 ans avant qu'on lui ait fait cette invitation à Versailles, son amour pour la monarchie versaillaise dans son soutien aux artistes. Et je crois que dans ce geste aussi, là je tiens à insister un petit peu sur cet aspect qui me semble essentiel dans le débat du moment, c'est bien sûr l'ouverture de notre pays à toutes les formes d'art et à toutes les nationalités. Je crois que Versailles de Louis XIV était aussi un Versailles ouvert aux artistes de toute l'Europe. Aujourd'hui, ce qui fait la force de nos musées, c'est d'être ouvert à tous les types et à toutes les nationalités.
Lorsque le Front National se prononce sur sa politique culturelle, il propose un art le moins idéologique possible.
Moi aussi, je suis contre un art trop lié à une idéologie politique. Voilà, je veux dire, c'est évident. Mais en revanche, je crois que fondamentalement, l'art est causa mentale. L'art est chose de l'esprit. Et que l'art est fondamentalement idéologique, justement. L'art est porteur d'idées, l'art est questionnement. C'est dans cette ambiguïté fondatrice qu'il a son sens. Et je crois que franchement, on ne peut pas dire que l'art a du sens si l'art ne nous questionne pas.
De l'exception culturelle au patriotisme culturel.
C'est une vaine utopie de tenter d'arrêter le flot créatif. Je crois que fort heureusement, aucun parti, quel que soit son bord politique, n'arrivera à arrêter le génie de l'artiste. On le sait, dans les pires moments de l'histoire. Parfois, d'ailleurs, ça a été des moments créatifs extraordinaires. Je parlais tout à l'heure de Dada. Pensons à la Première Guerre mondiale, ce charnier hallucinant, prémisse de tant de tragédies du XXe siècle. Ces massacres de masse a créé quelques moments créatifs fous. Pourquoi ? Bah parce qu'au fond, dans ces moments-là, l'artiste résiste. Et ça, je crois que c'est fondamental de le rappeler. Ensuite, aujourd'hui, vouloir s'ancrer dans un patrimoine, je comprends ce souhait de rassurer, mais il faut le dépasser, car fondamentalement, sans vouloir faire de boutade et reprendre cette vieille ancienne, mais l'art contemporain, c'est évidemment le patrimoine de nos enfants et de nos petits-enfants. Je veux dire, aujourd'hui, Versailles n'a de sens que dans cette stratification. C'est le Versailles de Louis XIII, dont on parlait tout à l'heure, qui s'est transformé en Versailles de Louis XIV, puis en Versailles de Louis XV, puis en Versailles de Louis XVI, et Louis-Philippe qui l'a transformé en musée de l'histoire de France, car on le sait peu, mais il y a un musée de l'histoire de France en France, il est à Versailles. Et puis au XXe siècle, il y a eu un nouveau regard sur Versailles, et puis Jeff Koons a été une modeste expérience temporaire, j'insiste sur le côté temporaire, et c'est dans cette histoire, dans cette stratification de regard que l'art a du sens. Si on veut une ville figée, un Paris musée, un Marseille ossifié, je pense que notre pays perdra tout le sens de ce qu'il a voulu défendre depuis des siècles, c'est-à-dire tout simplement être en mouvement.
De l'échec de la démocratisation culturelle à l'art populaire.
Je crois qu'aujourd'hui, derrière cette question, il y a fondamentalement ce débat sans fin entre offre et demande. Je crois que la démocratisation, c'est un combat de tous les instants. On l'a rappelé au cours de cet entretien. Avec tous les musées du monde, on ne remplacera jamais le pouvoir de l'école. Et c'est dans la dialectique entre les musées et l'école qu'on trouvera sans doute une petite partie de la solution. Néanmoins, sans vouloir asséner de chiffres, on a la chance d'être dans un pays extraordinairement florissant. Quelle ville autre que Paris offre tant d'événements culturels? Quel pays aujourd'hui, alors qu'en dans d'autres endroits d'Europe, on ferme des institutions culturelles en termes de crise économique? Ça serait fou de vouloir questionner ce modèle. Je crois qu'il faut au contraire le défendre, ce qui n'empêche pas d'être exigeant. Et je crois qu'aujourd'hui, on le sait bien, une ère des grands chantiers est achevée. Un moment de l'offre culturelle est derrière nous. On a un extraordinaire panorama. Et je crois qu'on est, avec certains collègues, très sensibles à la qualité de la visite. Je crois qu'aujourd'hui, la course aux chiffres n'est plus d'actualité. Avoir un visiteur de plus, mais qui est un visiteur non satisfait, n'a pas de sens. Donc je crois que pour beaucoup, je crois que donner du sens à la visite, tout ce qui permet la médiation numérique, qui est encore un mot un peu fourre-tout, mais l'expérience de la visite doit être différente. Je le vois avec mes collègues du Louvre, d'Orsay, de Versailles, on discute très souvent de ces problèmes, et je crois que c'est fondamentalement là où on doit être populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire à l'écoute de tous, et tous sauf élitistes.
La décadence des curateurs.
C'est plus globalement la question du choix esthétique. Je veux dire, tout le monde peut faire le métier de tout le monde. Voilà, mais je crois que fondamentalement, dans la programmation artistique, et vous me permettrez d'être un peu plus large que le monde des musées, le monde du commissariat, il y a le moment où on respecte un choix qui a été fait de confier une institution à une personne qui va l'incarner. Combien de lieux, théâtres, musées, bibliothèques, que sais-je, ont eu des moments incarné, des moments où il y a eu cette alchimie entre une personne, un budget, une architecture, et ont disparu de la scène, de la cartographie, parce que cette alchimie avait disparu. Et je crois que pourquoi cette alchimie avait disparu, parce que la confiance n'était plus là. Bien évidemment, on peut avoir des erreurs qu'on se plaît parfois à ressasser. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit une création dynamique, on voit un pays qui, malgré la crise économique dans plein de domaines, un ami cher paysagiste est décédé récemment, Pascal Cribier, qui dit qu'en France, on a une des plus belles écoles du paysage. Gilles Clément, Louis Bénèche, Patrick Blanc, tous ces grands génies rayonnent en France. Et sont-ils des personnes de l'art populaire? Sont-ils des personnes de l'art élitiste? Peu importe, le matin, ils créent cette forme d'art qui est éminemment populaire, pour le coup, qui est l'art du jardin et qui est un art mouvement.
Qu'est-ce que l'art contemporain?
Cette définition d'un art contemporain qu'on avait du mal tous les deux à définir, parce qu'au fond, pour moi intrinsèquement il n'existe pas, mais puisqu'on est dans le sud à Marseille, pas très loin de cette vallée où des êtres il y a quelques dizaines de milliers d'années ont créé cette grotte Chauvet, toute personne qui a pu avoir la chance d'aller à la grotte Chauvet, qu'est-ce qu'elle dit en sortant? Ben, elle dit au fond tout l'art d'aujourd'hui est là. Voilà. Et ça, je crois que fondamentalement, c'est une leçon qui dépasse toute question politique et qui touche intrinsèquement notre vie d'être humain.
De l'absence de traces du travail dans les œuvres de l'art contemporain dénoncées par le Front National.
Là, il y a autant de réponses que d'artistes, mais tout de suite me vient un génie que j'ai l'honneur de pouvoir exposer dans le musée que je dirige, c'est Pablo Picasso, à qui parfois, souvent, on questionnait, on disait « mais un enfant pourrait faire de même ?» Et il répondait « oui, certes, il m'a fallu quelques minutes, mais une vie pour réaliser cela. » Et qu'est-ce qu'il entendait par là? Bah, c'est qu'à l'âge de 10 ans, il dessinait comme Raphaël, mais qu'il a passé toute sa vie à désapprendre. Avec cette culture classique, retrouver le geste de l'enfant. Et ça, au fond, c'est fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément d'excellents artistes qui pratiquent cette valeur travail que vous avez présentée dans votre question. Je ne sais pas, Anselm Kiefer, présenté en ce moment à la Bibliothèque nationale de France et bientôt au Centre Pompidou, à un immense atelier. Voilà, on a parlé tout à l'heure de Jeff Koons, ainsi de suite. Les architectes ont d'immenses agences. Enfin, je veux dire, le travail collaboratif, le travail collectif est au cœur aujourd'hui de l'actualité contemporaine. Regardez en ce moment l'exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris, Coworkers, où toute l'exposition repose justement sur cette notion de collectif. Et puis, il y a des artistes qu'on appelle un peu plus rapidement conceptuels, mais qui là aussi ont une culture extraordinaire, qui proposent des gestes différents, qui nous font voir la création artistique peut-être d'une autre manière. Mais ce que je crois rend fascinant la création d'aujourd'hui, c'est justement cette diversité. Et contrairement à ce qu'on dit, le travail n'a pas disparu, il n'est plus que jamais présent.
C'était quelques réponses de Laurent Lebon, président du musée Picasso, à quelques éléments de langage du Front National sur l'art.